Donc, première interview sur ce stand Ferra de l'édition Printemps de Bourges 2006, pour moi. Mais enfin, une des premières interviews sur ce stand Ferra Rock pour l'édition 2006 avec Résus.
Bonjour.
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 Alors, Résus, aujourd'hui, joue sur une grande scène à Bourges. Il y a, disons, 3 ans. Est-ce que vous auriez imaginé être aussi rapidement sur ce genre de scène, ce genre de programmation et,
C'est quelque chose que tu es toujours en droit d'espérer et tu fais tout pour. Après, c'est aussi un peu le fruit du hasard, quoi. Donc, on prend les choses comme elles viennent et on fait tout pour qu'elles viennent. Et puis, si elles viennent, on est super content, donc on est super content.
Dans votre cas, faire tout pour que ça arrive, ça a commencé par un petit label de votre région qui était qui a son petit nom pour la qualité des artistes et puis un CQFD. Est-ce que pour vous ça ressemblait aussi à faire tout pour arriver quelque part, parce qu'en plus c'était une des premières éditions de CQFD, donc quelque part il y avait un coup de hasard qui était fort par rapport à ça. Alors, être sélectionné sur la compile et ensuite se retrouver carrément en tête de liste aujourd'hui avec le temps qui a légèrement passé. Comment vous voyez ça comme le déclencheur, mais sinon à part ça?
Ben ça, enfin ça a déclenché un buzz surtout dans le milieu professionnel en fait sur le coup, par exemple pour CQFD. Mais c'est vrai que c'est arrivé une période où on lançait un peu des disques dans la nature en espérant qu'il se passe quelque chose. Il se trouve qu'on a envoyé un disque à CQFD, enfin cette chanson en particulier, et sans calculer la chose, sans dire ah, on a gagné, c'est génial. Donc voilà, on a été sélectionnés, déjà là on était fous, on nous a demandé de faire des petites photos dans notre chambre et tout, c'était génial, on a gagné, là on n'y croyait plus. Et voilà quoi, c'est quelque chose, c'est des petites étapes qui te font grimper, mais je pense que c'est plus, encore une fois, c'est des choses qui ont plus d'influence, oui, dans le milieu pro, quoi. C'est-à-dire que ça nous a permis de trouver une maison de disques, un tourneur, etc. Mais c'est quelque chose qui a encore assez peu de répercussions sur le public. Donc, voilà.
Bah, en l'occurrence, à ce moment-là, je crois que les Inrocks s'étaient décidés à prendre le groupe dans le cadre du festival des Inrocks, parce que ça venait aussi du fait que la maison de disque en question, c'était Pias qui chaperonnait l'élu cette année.
Non, c'était Labels. Hein. Ah,
oui. C'était Labels.
Ouais.
D'accord.
En fait, on aurait dû signer avec une Labels, donc une autre maison de disque. Et ça, c'est pas fait parce qu'on avait des propositions beaucoup plus intéressantes notamment de Pias, quoi. C'est-à-dire qu'ils croyaient en nous et qu'ils voulaient vraiment nous aider à long terme, alors qu'avec la maison de disques, donc Labels, ils nous promettaient rien du tout, quoi.
C'était
donc,
un one shot éventuel,
voilà, voilà. Mais bon, ça a pas d'importance, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on ait trouvé une maison de disques, quoi.
Mais donc, en tout cas, moi je me rappelle avoir été là ce soir là à la Cigale quand vous aviez fait le concert là-bas. Et quel souvenir vous gardez de ce spectacle-là? J'ai le souvenir de toi, me semble-t-il, Aurélien. En sortie de scène, tu avais un t-shirt d'un groupe de rock'n'roll fameux. Non, c'était un truc de rock'n'roll.
C'était
Adam Green.
Ouais, certain.
Et tu t'étais retrouvé avec une fan qui vous aviez discuté de ton t-shirt en premier abord.
Il me semble même que c'est notre attaché de presse, en fait. Mais ce concert, il y avait vraiment un esprit très rock'n'roll, quoi. C'était avant les Libertines, les Black Keys. Et c'est vrai que c'est assez spécial parce que c'est pas spécialement notre public non plus, ce côté un peu rock garage anglais ou américain, le binôme des Black Keys ou alors les Libertines qui sont vraiment un truc très rock garage ado de Minette, quoi. Je me souviens que je flippais vraiment avant de monter sur scène, quoi. Je flippais vraiment sur scène. Et
moi, je me rappelle du regard d'Aurélien parce qu'on était en plein tour en fait, et son ampli guitare arrêtait pas de merder. Et au moment où il a fallu attaquer le premier morceau, en fait, sa guitare marchait pas, quoi. Et genre, là, il m'a regardé et j'ai senti le désespoir d'homme, tu vois, dans sa plus grande splendeur. Genre, la première fois, c'était notre première grosse scène à Paris, tu vois, il y avait déjà 1000 personnes au moins qui devaient être arrivées. Et bon, le miracle a fait que finalement la guitare a marché, quoi.
Et donc, vous avez dû apprendre pas mal pendant toute cette tournée et le temps qui a suivi parce que. Je vous ai vu à la maroquinerie à la sortie du dernier album. Et là aussi il y a eu un problème technique et on a senti la maîtrise un minimum puisque le morceau a continué à tourner jusqu'à ce que le problème technique soit résolu. C'est des choses qu'on apprend qu'en live, ça, à la limite, même avec la bonne volonté du monde.
C'est un truc que tu apprends petit à petit, quoi. C'est-à-dire plus tu avances entre guillemets dans le métier, le public ne doit pas se rendre compte quand il y a quelque chose qui cloche, quoi, tu vois. Quelqu'un qui est professionnel là-dedans, c'est quelqu'un qui, il y a une guitare qui est pétée, personne s'en rend compte, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc que t'apprends quand t'as pété ta guitare 10 fois, comme moi, voilà quoi. Et au bout de la 10e fois, bah, les gens s'en rendent moins compte, voilà.
Ou alors ils se disent que tu changes de guitare souvent, en fait.
Ouais.
Que vous gagnez déjà beaucoup d'argent.
Non, ouais. C'est des guitares mexicaines.
C'est des guitares mexicaines.
Un retour peut-être sur le passé. Je me souviens vous avoir vu à Lyon, donc il y a longtemps. Et on sentait dans Résus un vrai sens des mélodies, mais une vraie fragilité aussi, avec un côté assez retenu. Et en fait, quand on a reçu le single, on a été très très surpris par ce côté dansant, très fun. Mmh. Ça vient de quoi cette évolution, qui n'est pas simplement le métier comme c'est Patrice et l'évolution scénique, mais qui est aussi pour... Enfin, moi que je, j'écoute comme une vraie évolution musicale.
Je pense que sur l'album, moi, il n'y a pas uniquement que ce côté dansant, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de chansons qui retranscrivent quand même bien l'esprit. Je fais une chanson tout seul le soir parce que je me suis fait plaquer par ma copine sur mon lit avec ma guitare, quoi. Mais voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur cet album, on a fait quelque chose de plus produit, peut-être plus dans ce qu'on écoutait dans cet espace de temps au moment où on a composé l'album. Et c'est vrai que ça a été aussi peut-être influencé par tous les concerts qu'on a fait.
T'apprends à être beaucoup plus solide rythmiquement. Je pense que par rapport au début, basse batterie par exemple, on a appris à être beaucoup plus pas trop tomber dans cette fragilité parce que c'est assez dangereux. Et on aimait bien essayer de mêler énergie et mélodie, quoi. Donc, rester dans quelque chose d'incisif. Mais en même temps très mélodique et très évocateur, quoi.
En même temps, vous avez fait le choix d'une production très brillante et c'est pas péjoratif. Mais du coup, ça donne un côté facile, forcément.
Bien sûr. C'est ce qu'on voulait avec cet album, c'est-à-dire essayer de toucher un public plus large que le public indie typique qui lit les webzines et qui achète les imports. On voulait,
on veut aussi les toucher eux.
Mais c'est pas.
Et on en fait partie, quoi.
C'est pas du tout péjoratif, mais je pense qu'on voulait vraiment essayer de toucher, oui, un public plus large, quoi, avec ça. Mais on veut toujours.
On avait aussi envie de pouvoir le faire écouter à notre grand-mère à Noël sans être obligé de baisser le son, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a un côté à un moment donné, voilà, quoi. T'as envie de rendre ta musique un peu plus universelle. Un peu plus accessible, tout simplement.
Mais ça n'empêche que le sentiment, les paroles, la mélodie et la chanson, elle est toujours là, quoi. C'est juste la forme qui change un petit peu. Mais les trois quarts des gens, enfin, moi, je me rappelle pas avoir écouté un disque quand j'avais 16 ans et me dire putain, la production, elle est trop propre. Tu vois, par exemple, j'étais un disque, je me disais ah putain, ça me parle ou ça me parle pas. Mais production pour moi, ça voulait rien dire, tu vois, par exemple. Donc, je pense que voilà, quoi. On a fait les chansons, puis après, on les a arrangés d'une certaine manière pour que ça passe auprès d'un public, quoi.
Un petit rappel, il a été fait avec qui en production cet album justement ?
Alors la production, c'est-à-dire on l'a enregistré et fait mixer par deux Belges, mais c'est entre guillemets produit par nous, c'est-à-dire que c'est nous qui avons conçu tous les arrangements, toutes les structures, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné nos morceaux à un producteur qui a fait là, faut le raccourcir, il faut répéter le refrain 4 fois à la fin, tu vois. Ça c'était notre travail en quelque sorte, pas spécialement parce qu'on l'avait choisi, mais aussi
parce qu'on n'en avait pas les moyens,
voilà,
aussi.
On a les moyens de se payer un producteur, quoi. Ouais.
De façon générale, on voulait un son qui nous parle et qu'on affectionne particulièrement, qui est le son de plein de groupes de pop ou de rock anglais ou américain. Et c'est vrai qu'en en Belgique, on a trouvé des gens qui avaient un peu cette même culture que nous, quoi. C'est-à-dire en France, il y a énormément de gens qui sont marqués par la Noir Désir, par tout ça, par la chanson française, quoi. Et c'est vrai que là, en Belgique, ce qui était vraiment appréciable pour nous, c'est que quand le type arrivait le matin au studio, dans sa bagnole, il venait d'écouter le même disque qu'on venait d'écouter nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait vraiment une même culture, quoi.
Et derrière, aujourd'hui, cet album va commencer à un moment ou à un autre à avoir vécu. J'imagine que déjà vous avez peut-être pensé aux musiques et aux textes du prochain et tout, et que la maison de disques de son côté, dès que vous leur avez dit qu'il y avait ça, eux ont dû penser à une production, à éventuellement avec des arguments qui peuvent être souvent ça vous aidera à évoluer ou quoi que ce soit.
Alors,
où est-ce que ça en est
là ? En fait, nous, notre maison de disques, Pias, c'est un indépendant, en fait, c'est un gros indépendant, donc il n'y a pas ce côté d'une major qui va te dire on a pensé à tel producteur, il faudrait réarranger
ce morceau. Complètement libre.
Voilà, ils n'ont aucun regard artistique sur les morceaux, quoi. Après, oui, on a déjà commencé à penser au prochain parce que, mine de rien, il y a une telle inertie entre le moment où tu composes, le moment où tu enregistres et le moment où ça sort que tu es obligé d'y penser maintenant. Donc, on essaie de mener de front en ce moment le côté tournée, le côté composition. Donc, moi, je fais des trucs de mon côté, Simon aussi. Et puis, quand on a le temps répète, on met en commun et puis on voit ce que ça donne. Et puis voilà.
En fait, on aimerait bien, parce que là, l'album, Sad Disco, on va encore le défendre toute l'année en France. C'est-à-dire que nous, on va faire pas mal de gros festivals cet été, c'est nouveau pour nous. Et on va encore tourner tout l'automne et tout l'hiver. On va notamment faire 15 dates d'affilée en novembre-décembre avec deux autres groupes. Et puis l'album sort pour la première fois aussi à l'étranger. Il est sorti en Belgique hier et puis il sort en Suisse dans deux semaines et en Allemagne cet été. Donc on va aller faire pas mal de dates là-bas aussi. On a vraiment envie de s'exporter et d'aller jouer là-bas. On a eu l'occasion depuis le début de l'année d'aller faire des concerts dans des festivals en Norvège, en Hollande et en Angleterre. Et c'est super excitant et on a l'impression de trouver aussi un public à qui notre musique parle, quoi. Donc on attache beaucoup d'intérêt à la France, mais on aimerait aussi pouvoir s'exporter, quoi, tout simplement.
Et un public qui n'attache pas d'importance au fait que vous soyez français et vous chantiez en anglais.
Ouais,
pour eux, ça
les
choque pas.
Il y a ce petit côté exotique, tu vois, quand t'arrives dans un pays étranger, et puis des pays comme l'Allemagne ou la Belgique, ils ont vachement moins le tabou de la langue. Enfin, en Belgique, à la radio, t'écoutes, les trois quarts des groupes belges chantent en anglais, en Allemagne, c'est pareil, enfin, en tout cas, dans le style de musique qu'on fait. Donc,
c'est deux fois plus dur en tant que groupe français de se faire respecter en France, tandis que le moindre groupe américain de post-rock de Seattle, tout le monde va trouver ça génial, alors que moi j'en connais un Clermont-Ferrand qui est super et qui leur met de la boîte, mais tout le monde s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté.
Donc, est-ce qu'un jour ça sera le challenge ? Parce qu'effectivement, de toute façon, l'avantage, moi qui ai des groupes qui chantent en anglais en France, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'effectivement, s'il veut y avoir un quelconque espoir. Ne serait-ce qu'à l'étranger, dans des pays comme vous venez de les citer qui ne font pas attention à ça, il faut chanter anglais, pas comme une vache espagnole, on va dire. Mais donc vous avez à peu près cette chance-là de chanter anglais correctement. Est-ce que l'Angleterre, y a quelque chose de faisable d'après vous ?
L'Angleterre, je pense que c'est honnêtement, c'est perdu d'avance en fait. Ouais. Parce que là-bas, déjà au mètre carré, il y a 150 groupes comme nous, aussi bons voire meilleurs. Et ensuite là-bas, il y a vraiment les mecs ont vraiment la culture du concert, la culture du single, la culture de l'album, la culture du groupe qui joue dans le pub à chaque fois que les mecs sortent boire une bière, etc. Et il y a vraiment un côté, je sais pas.
Mais pour eux justement, qui ont 150 chroniques de notés par semaine dans le NMI,
ouais, mais
un
en
groupe
fait,
Frenchie, ça non, serait la petite touche.
Non, mais si, c'est pas impossible. Tu vois, ouais. Phoenix marche très bien en Angleterre, ils font des dates, il y a pas de souci.
Phoenix marche très. Ouais. Hein?
Mieux en Angleterre, nous on fait pas une focalisation sur l'Angleterre déjà. On a joué il y a deux semaines à Londres, ça s'est super bien passé, on était très contents, on a joué dans des bonnes conditions. Là on va jouer dans trois semaines dans un festival à Brighton aussi. Si un jour on trouve un distributeur là-bas, on ira faire des dates, on sera très contents, mais on fait pas une focalisation sur l'Angleterre.
Je pense que c'est un peu comme. C'est un peu une comparaison un peu merdique, mais c'est un peu comme si Bruce Willis il venait jouer dans les choristes, enfin tu vois, en France quoi. On lui dirait, mais casse-toi quoi, retourne jouer dans la fatale quoi.
Il me semble qu'il a une bonne voix.
En fait, la concurrence elle est super rude là-bas, donc si on va là-bas, il faudra qu'il se soit déjà passé quelque chose ailleurs quoi.
Exactement.
Tu vois, c'est pas. Mais bon, pourquoi pas.
Juste un petit retour sur cette disco. C'est un album que je trouvais. On va dire, pour prendre des images un peu américaines, c'est un truc un peu la bande son d'un road movie. C'est un truc très très aérien, aéré, avec des rythmes un peu de cavalcade entre guillemets. Comment ça vient à quelqu'un qui a grandi dans la région de Grenoble, je pense, de ces images là et cette musique là. C'est pas, je pense que le paysage a peut-être tendance à donner des images de musique différentes.
Je sais pas trop. Moi, je sais que je suis très. J'habite Grenoble, mais bien que ce soit une petite ville, je sais que je déteste la montagne et la campagne, etc. Quoi. Ça me déprime au plus haut point, mais pas au point d'écrire des chansons, au point de ne rien faire du tout. Et non, je pense que. Je sais pas, ça a été propice à vivre des trucs qui sont plus exacerbés dans ce genre de ville parce que t'es plus isolé que dans un autre endroit. Et c'est vrai que. Enfin, je sais pas si Grenoble a vraiment eu une influence sur la musique.
Je sais pas, mais c'est vrai que ça s'est fait un peu naturellement.
Savoir que Laura est la seule vraie grenobloise du groupe.
Mais je sais pas, j'ai l'impression que pendant qu'on composait l'album, on n'avait pas forcément d'images qui nous venaient en tête comme ça. C'était, je sais pas. En plus, on était enfermés dans un local au sous-sol. C'était vraiment très claustrophobique. Donc... bizarrement.
Bah, c'est un claustrophobique aérien, on va dire.
Voilà.
Il y a un attachement quand même à cette région. C'est drôle que ça soit un groupe de pop qui sorte de Rhône-Alpes. Puisque en Rhône-Alpes, on a toujours entendu dire que la pop c'était super dur pour arriver.
Sure, ouais.
et que voilà, est-ce que vous avez l'impression qu'aussi, enfin, vous avez quand même attaqué votre tournée par Grenoble quasiment, hein, parce qu'il y a eu l'octambule.
Au début du groupe, ouais, ouais. Une
grosse date quand même chez vous, quoi. Il y avait cette envie aussi d'y retourner et de...
Ben, il y a le truc, comment dire, quand on a démarré à Grenoble, on a fait pas mal de dates à Grenoble parce qu'on était assez copains avec une salle qui s'appelait l'Entrepôt, qui a fermé depuis, où il y avait un peu toutes les tournées des groupes rock indé qui passaient. Donc il y avait Nada Surf, Live to Experience, Phoenix et tout. Et donc, vu qu'il y avait très peu de groupes de rock, entre guillemets, dans le même style que nous, c'était assez simple de décocher les premières parties, beaucoup plus que si on était dans une capitale où la concurrence aurait été vachement plus rude. Et donc on a acquis un certain public à ce moment-là, mais je pense que la plupart des gens qui venaient à nos concerts et tout, c'était un peu des étudiants un peu comme nous à l'époque, et ils ont tous bougé depuis, quoi. C'est-à-dire que maintenant, quand on revient à Grenoble, ces gens-là, ils habitent plus Grenoble, quoi. Et il y a plus de salles pour jouer, en quelque sorte. Et donc quand on revient, on n'a pas vraiment spécialement un public grenoblois, quoi. Des fois on fait plus de gens dans des salles où il y a 10 000 habitants qu'à Grenoble, quoi.
Ouais, honnêtement, je pense qu'on est plus connu dans le nord qu'à Grenoble, quoi. Et on attache pas
plus pop aussi, enfin,
bien sûr. Je veux dire, on n'a jamais pris en notre pied que jouer en Normandie ou dans le nord, quoi. Enfin, je veux dire, là les salles sont remplies, les gens sont réceptifs. À Grenoble, c'est particulièrement beaucoup plus difficile, quoi. Et on n'attache pas spécialement une importance, une fierté à Grenoble, quoi. On respecte, mais c'est pas on n'est pas là à grenoblois, quoi. Ouais. Tu vois, c'est,
un mot
fout,
pour
quoi.
Dire quand même que vous avez une tournée qui ferait pâlir beaucoup de groupes français, et qu'en même temps vous avez quasiment, vous allez vous faire tous les gros festivals de l'été.
Ouais.
Et c'est marrant parce qu'avec le recul, on se dit que vous êtes passé du statut de découverte au statut donc presque à jouer dans les offs de ces festivals. À vous retrouver quoi sur les grosses scènes. Alors vous êtes, ça vous fait sourire? Vous avez la trouille? Ou vous êtes comme des enfants dans une confiserie en disant on va se les faire.
C'est exactement ça, parce qu'on a jamais goûté des festivals. Enfin, même moi personnellement, je suis jamais allé en tant que spectateur, donc je sais pas du tout ce que c'est. On m'a raconté, etc. Quoi, mais. Et c'est, ça
alors,
va
au
être
troisième
super
morceau, en général, le chanteur se jette dans le public. Ils le font tous, hein, tu verras. Okay.
Je retiens.
On est super excités, effectivement, à l'idée de jouer dans ces gros trucs, quoi. Et voilà, nous, on fait tout pour. Hein. Si on fait beaucoup de dates aussi, on fait plein de sacrifices. On est très peu sur la route, on fait tout nous-mêmes. Hein. C'est du do-it-yourself. On conduit nous-mêmes le camion. On n'est pas payé des 1000 et des 100. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est à l'huile de coude, quoi. Mais c'est parce qu'on est passionné par ça et qu'on a vraiment envie de faire connaître notre musique au plus grand nombre, quoi. Et que voilà, après on a eu de la chance. Bon, la chance, si tu bosses pas, voilà, quoi. Et on est très bien entouré, on a un super manager, on a un super tourneur, on a une maison de disques qui nous suit, enfin voilà, quoi, on est tous motivés, quoi.
Et quelle est aujourd'hui la relation que vous pouvez avoir avec des groupes qui étaient à l'époque sur le label Un Dimanche aussi, des groupes comme Rien? Ouais. Qui sont un très bon groupe, mais qui ont assez du mal à se faire connaître. Est-ce qu'il y a une envie de les tirer un peu? Est-ce qu'il y a une remotivation en leur disant essayez, continuez?
Je pense que c'est. Bon, déjà, il y a une grosse partie du catalogue Un Dimanche qui ont splitté, qui se sont reformés sur d'autres trucs, etc. Après, pour des groupes comme Rien, c'est des groupes tellement spé. Qui, enfin, tu vois, c'est du post-rock instrumental de 25 minutes.
Ouais, mais Constellation, comme on disait tout à l'heure.
C'est magnifique, tu vois.
Des gros fans de Rien. Mais...
J'adore, quoi. Enfin, j'étais le premier à acheter CD, je leur ai aidé à faire les pochettes en carton, tu vois, dans leur local.
On
pour
est des gros fans,
opaner,
mais
quoi.
Que...
Mais.
À un moment donné, il faut prendre le risque de franchir le pas, quoi. Genre, nous, on a tous pris le risque. On a tous, à la fin des études, des petits boulots merdiques pendant 2 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui ne franchissent pas ce pas-là aussi, quoi. Voilà. Qui choisissent de garder leur taf, ou tu vois, qui se rendent pas disponibles, ou qui n'acceptent que les concerts bien payés ou dans des bonnes conditions. Je veux dire, nous, on a fait 2 ans de bar, hein, avant de commencer à faire des salles avec des retours et des. Tu vois, c'est une démarche aussi à avoir. Et puis, peut-être que nous, on est que 3, alors on se met peut-être plus facilement d'accord. Dans un groupe des 8, il y a peut-être plus de distorsion. Ouais. Enfin, tu vois, c'est.
Donc en tout cas, on va vous souhaiter. Bon, demain ça va être assez facile, je pense. Hein, c'est une salle le 22. Ce soir, je veux dire.
Ce soir, ouais.
Le 22, ça va être une taille honnête et avec le bon son. On vous souhaite bien du courage et bien du plaisir pour un été qui va être long, je pense, mais plein de bonnes choses.
Merci
beaucoup.
Merci.
À bientôt.